Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Du Grain à Moudre. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Le Parlement européen décernera demain, comme chaque année depuis 1988, le prix Sakharov. Pour y prétendre, il faut avoir apporté une contribution exceptionnelle à la lutte pour les droits de l'homme dans le monde. Une militante écologiste guatémaltèque, un journaliste suédois détenu dans son pays d'origine, l'Érythrée, et l'opposition démocratique vénézuélienne figurent parmi les finalistes. Il faut remonter à l'année 2000 et à l'attribution du prix au mouvement basque espagnol Bastaya pour trouver un lauréat issu de l'Union européenne. Voilà qui paraît assez logique d'ailleurs, tant l'Europe est en pointe dans le domaine des droits fondamentaux. Leur respect est même une des conditions d'accès à la communauté. Sauf que, comme souvent, les évidences sont parfois trompeuses. Dans un rapport publié hier, l'organisation Human Rights Watch dénonce les lois prises par le gouvernement polonais qui sapent l'état de droit et menacent divers droits humains. La Commission européenne s'est d'ailleurs emparée de ce sujet il y a plusieurs mois sans parvenir pour autant à se faire entendre de la Pologne. Et ce qui vaut d'ailleurs pour Varsovie vaut également pour Budapest en Hongrie. Alors, ajoutez à cela l'arrivée de l'extrême droite au Parlement allemand, son prochain retour au gouvernement en Autriche et un climat politique général de moins en moins hostile aux régimes autoritaires. Voilà un cocktail plutôt inquiétant au sein même du continent européen. Alors l'Europe est-elle armée pour défendre l'état de droit ? Eh bien, c'est le thème de notre discussion ce soir en compagnie de trois invités, à commencer par vous, Anna Rourka, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes la présidente de la conférence des OING du Conseil de l'Europe, OING pour Organisation Internationale Non Gouvernementale. Cette conférence, c'est une des... Le Conseil de l'Europe, pardonnez-moi, c'est une des institutions européenne, chargée notamment du respect des droits de l'homme. Et la conférence que vous présidez représente la société civile au sein de ce conseil. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Elsa Bernard est notre deuxième invitée. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeure de droit public à l'université Lille 2, spécialiste de droit de l'Union européenne et des droits fondamentaux européens. Et puis notre troisième invité, il est au téléphone, il s'agit de Pierre Verluise. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le fondateur du site DiploWeb, vous êtes chercheur associé à la FRS, la Fondation pour la Recherche Stratégique, et vous avez publié l'an dernier au PUF, Géopolitique de l'Europe, de l'Atlantique à l'Oural. Alors avec vous trois ce soir, on va essayer d'examiner quels sont les points un peu sensibles en matière de respect ou plutôt de non-respect de l'état de droit en Europe, au sein de l'Union européenne mais aussi plus largement, puisque le Conseil de l'Europe est beaucoup plus large en termes d'États membres que la seule Union européenne, voir quels sont les outils qui permettent peut-être de limiter les atteintes. Est-ce que ces outils sont suffisants? Mais je voudrais d'abord qu'on commence peut-être par examiner l'importance qu'a cette question de l'état de droit dans la construction européenne. Elsa Bernard, est-ce qu'on peut dire que c'est une dimension qui est absolument fondamentale?
En théorie, oui. Dans les traités, oui. L'article 2 du traité sur l'Union européenne prévoit le respect de certaines valeurs et ces valeurs fondent l'état de droit.
L'Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, de l'état de droit, ainsi que de respect des droits de l'homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Ah, ça, c'est la première phrase de l'article 2.
Voilà, la question après, c'est de définir ce qu'est l'état de droit. Alors, la Commission de Venise l'a défini. On a plusieurs critères qui définissent l'état de droit. Le fait qu'il y ait une sécurité juridique, un droit qui soit prévisible, l'accès à des tribunaux impartiaux, l'égalité de tous devant la justice. Et en fait, il y a un lien qui peut être fait très rapidement entre l'état de droit et la démocratie d'une part, les droits fondamentaux d'autre part, parce qu'on comprend bien que l'un n'existe pas sans l'autre et vice-versa.
Alors vous avez évoqué la Commission de Venise. Si j'ai bien travaillé mon émission ce soir, c'est une commission qui dépend du Conseil de l'Europe, Anna Rourka. Je le dis parce qu'on se rend compte finalement en travaillant ces questions qu'il y a énormément d'organismes, d'institutions, de leviers autour de ces questions de l'état de droit et des droits fondamentaux, que ce soit donc pour l'Union européenne ou que ce soit pour le Conseil de l'Europe, c'est une notion qui vous paraît, vous aussi, fondamentale?
Bien sûr, la Commission de Venise est un des piliers, on va dire, d'expertise en ce qui concerne l'état de droit. Il faut juste aussi rappeler que ce n'est pas du tout un organe politique, c'est vraiment un organe d'expertise qui regroupe également beaucoup plus d'experts que 47. Hein. Je crois qu'actuellement, il y a 90 membres. Représentants des États aussi en dehors de l'Union européenne et du Conseil de l'Europe en tant que tel.
On peut aussi ajouter qu'il y a un commissaire qui est en charge du respect de l'état de droit. C'est pas seulement sur ces missions-là qu'est défini son poste, mais c'est Frans Timmermans, commissaire donc chargé de l'état de droit et de la charte des droits fondamentaux. Pierre Verluise, est-ce que du point de vue de l'Europe et du point de vue peut-être plus spécifiquement de l'Union européenne, il y a aussi une dimension peut-être civilisatrice que s'est assignée l'Europe au regard de la diffusion des droits fondamentaux dans le monde.
Au regard de son histoire, l'Union européenne est très attachée à l'état de droit. L'article 2 du traité sur l'UE, que vous avez cité presque in extenso, le précise bien, et l'Union européenne se veut effectivement normative. Mais ce qui est intéressant, c'est de considérer que l'Union européenne s'est en quelque sorte elle-même auto-limitée pour le respect des valeurs de l'état de droit sur son espace. Puisque, en effet, le traité de Lisbonne, qui date de 2007, mais qui est effectif depuis 2009, prévoit en son article 7 que si les valeurs que vous avez citées, référence à l'article 2, ne sont pas respectées, alors l'article 7 permet en théorie qu'on enclenche une série de procédures pour suspendre les droits de vote de l'État concerné. La difficulté, c'est que quand on regarde de près cet article 7, on s'aperçoit que il est en réalité très difficile de finaliser la procédure, puisqu'en fait, les États qui ont peur que cette suspension de leurs droits, s'ils venaient à violer l'état de droit, se retourne contre eux, ont ménagé une succession de portes de sortie, parce qu'ils ont peur que cela leur revienne dans le nez. Autrement dit, cet article 7 qui permettrait de suspendre les droits de vote d'un État qui ne respecterait pas l'état de droit, n'a à ce jour pas encore été activé.
Même s'il n'a pas été activé, la Commission européenne a justement, alors on va entrer dans le vif du sujet avec cette question de l'article 7, la Commission européenne s'est dit prête en juillet dernier à le déclencher, alors on va bien voir si dans les semaines, voire les mois qui viennent, ce sera fait, à l'égard de la Pologne. Elsa Bernard, est-ce que vous considérez d'abord que cette menace doit être prise au sérieux? Est-ce qu'elle est faite, est-ce qu'elle est formulée dans ce sens par la Commission européenne? Et pour quelle raison? D'ailleurs, peut-être puisqu'on va parler là spécifiquement pendant un instant de la Pologne, pour quelles raisons cela pourrait être justifié de déclencher cet article qui pourrait priver la Pologne de ses droits de vote?
Alors que ce soit justifié, je crois qu'il n'y a aucun doute, compte tenu des atteintes aux libertés que l'on connaît actuellement dans cet État, que l'on connaît également en Hongrie, vous l'avez dit dans votre discours introductif. Qu'il y ait un risque réel et qu'il y ait une crainte de la part des gouvernements polonais ou hongrois, je suis tout à fait sceptique. Parce que, comme l'a dit M. Verluise, de toute façon, cet article 7 n'est même pas une menace, compte tenu des conditions de son déclenchement. Et notamment du fait que, pour constater, en fait, il y a deux possibilités. Avec cet article 7, une mesure qui consiste à ce qui est une mesure de prévention et une mesure de sanction. Pour la prévention, il faut une majorité des 4/5 des États. Pour la sanction, voilà, c'est déjà beaucoup. Mais pour la sanction, il faut un constat d'un risque clair et grave de violation des valeurs de l'article 2. Qui doit être fait à l'unanimité des États, quand même moins l'État concerné.
Oui, parce que si c'était à l'unanimité totale des États, on imagine bien que l'État concerné ne voterait jamais pour.
Oui, mais enfin, diplomatiquement, imaginez que la mesure puisse fonctionner avec ce seuil d'activation à l'unanimité des États, ne serait-ce que pour le constat. Et ensuite, pour la sanction, pour l'adoption de sanctions, alors là, il faut un vote à la majorité qualifiée des États. Donc, c'est ce que José Manuel Barroso avait appelé l'option nucléaire, impossible à mettre en œuvre.
Est-ce que ça peut vouloir dire, à votre avis, Elsa Bernard, que le risque de devoir éventuellement déclencher cet article-là a été sous-estimé par l'Union européenne? C'est-à-dire, on s'est doté de ce dispositif, mais tout en se disant, à partir du moment où les États finalement font partie de l'Union, c'est qu'ils sont respectueux des droits fondamentaux et que de toute manière, cette possibilité-là ne se présentera jamais.
Alors peut-être qu'il y a un peu de cela, le fait que pour adhérer, vous l'avez dit, l'article 49 prévoit le respect de ces valeurs. Donc, pour entrer dans ce club qu'est l'Union européenne, il faut respecter ces valeurs. L'idée serait peut-être qu'ensuite, eh bien, on suppose qu'elles continueront à être respectées. Moi, je crois surtout que l'Union européenne est ce que les États font d'elle et que les États n'avaient pas tellement envie de se mettre cette épée de Damoclès au-dessus de la tête.
Sur l'hypothèse d'une sous-estimation du risque, Pierre Verluise, qu'est-ce que vous en pensez, vous ?
Il y a très probablement eu une sous-estimation du risque politique au moment des élargissements de l'Union européenne, c'est-à-dire dans la phase 1996 jusqu'à 2004. Et on peut observer que ceux qui ont soutenu, peut-être à raison, l'idée qu'il fallait élargir l'Union européenne en 2004 puis en 2007 sont étonnamment discrets quand il s'agit aujourd'hui de constater que plusieurs des États d'Europe centrale et orientale sont hors des clous, ce qui est quand même un peu gênant. J'ajouterais qu'on a fait aussi preuve d'un solide optimisme ou de naïveté quand on n'a pas envisagé la possibilité qui aujourd'hui est sous nos yeux depuis plusieurs années, à savoir que deux États se protègent l'un l'autre, puisque comme cela vient d'être dit à raison, il faut que la décision soit prise à l'unanimité. On peut très bien imaginer que demain, la Hongrie protège la Pologne ou inversement. Et du coup, on se retrouve mis en difficulté. Donc, est-ce que c'est une arme atomique ou un faux semblant d'arme ? Pour ma part, je soulignerais qu'il y a une ambivalence.
Sachant que l'arme atomique, elle a aussi pour condition finalement, enfin, elle est basée sur l'idée d'une dissuasion qui consisterait à ne pas forcément être amené à utiliser cette arme, mais à être suffisamment puissante pour le dissuader. Voilà, donc c'est ce qui finalement définit peut-être assez bien cet article 7. Mais s'il y a eu sous-estimation, en tout cas au moment des grands élargissements au début des années 2000 de l'Union européenne, Anna Rourke, c'est peut-être aussi parce que les nouveaux pays entrants s'étaient libérés de dictatures. La population avait manifesté son droit à avoir davantage de liberté. C'était notamment le cas en Pologne. Pologne, pays que vous observez particulièrement au Conseil de l'Europe, pas seulement parce que vous-même vous êtes polonaise, mais c'est parce que c'est un pays qui est peut-être le plus problématique aujourd'hui en matière de respect de l'état de droit au sein de l'UE. Quelles sont d'ailleurs pour vous les principales atteintes à l'état de droit aujourd'hui dans ce pays depuis que le nouveau pouvoir est en place ?
Alors, bien évidemment, c'est une crise, en tous les cas, une atteinte à la question de l'indépendance de la justice. Et depuis les lois sur la Cour constitutionnelle, ou l'équivalent de la Cour constitutionnelle en France, avec là aussi une série de lois qu'on a demandé, en tous les cas, la société civile a demandé un veto pendant les vacances, et qui vise à réformer les tribunaux.
Des ingérences politiques dans la nomination des juges.
Tout à fait, avec des nominations et dans tous les cas une politisation de cet appareil qui devrait être indépendant. Donc, il est assez clair également que la réforme, en tous les cas, je pense que presque tout le monde est d'accord en Pologne pour dire que le système de la justice doit être réformé, parce que, oui, les procédures sont longues, les personnes attendent les décisions, parce qu'il ne s'agit pas seulement, ce qu'on dit souvent aussi au Conseil d'Europe, il ne s'agit pas d'une décision. On a besoin, en tant que représentant de la société civile, je peux le dire, que la décision soit appliquée. Et qu'à partir du moment où elle est appliquée, les monsieur et madame peuvent sentir le mécanisme de la justice. Donc je pense que c'est ça. Ensuite, il y a également toutes les atteintes, on va dire, à la liberté fondamentale, la liberté individuelle des personnes, et le droit reproductif était aussi une grande discussion en Pologne, où déjà les lois qui sont restrictives. Donc on a certains groupes et aussi des ONG qui poussent et proposent des projets de loi dans le cadre de l'initiative citoyenne qui marche en Pologne, à restreindre encore plus et sanctionner les femmes même de vouloir faire un IVG. Et de l'autre côté, après, on a aussi les atteintes sur la liberté d'association. Et là, nous avons pris position contre le nouvel institut, ce qu'on appelle la liberté, l'institut de liberté, qui vise à contrôler, dans tous les cas, centraliser les pouvoirs sur le secteur de la société civile.
Quand vous dites « nous avons pris position », c'est le Conseil de l'Europe, c'est bien ça, qui a exprimé son inquiétude en juillet dernier, donc face à ces différents projets, et notamment celui de la réforme judiciaire, du système judiciaire polonais. Est-ce que c'est le maximum, d'ailleurs, que le Conseil de l'Europe puisse faire, c'est-à-dire exprimer officiellement une inquiétude, Anna Rurka?
Je crois, non. Alors, en ce qui concerne la Pologne, il y avait les opinions, les avis de la Commission de Venise qui étaient clairs sur les lois et sur aussi les lois par rapport aux médias. Nous, en fait, en tant que conférence des ONG, on a pris une position par rapport à cette loi sur, sur les instituts de la liberté. Hein. Donc là, il n'y avait pas de position de la Commission de Venise encore là-dessus. La loi est très glissante aussi, on peut dire. Mais, donc, c'est pas seulement ça. En fait, on peut, la Commission de Venise est une feuille de route, on va dire, hein, en ce qui concerne l'état des droits. Mais après, il y a tout un engagement des processus diplomatiques, aussi bien gouvernemental que non gouvernemental. Le Conseil d'Europe, c'est une institution intergouvernementale, ça veut dire que c'est le comité des ministres qui dirige. Et que le consensus, en tous les cas, est recherché, même si les droits est pris, en tous les cas, normalement, les votes, les décisions sont prises à la majorité. On n'a pas besoin d'un consensus.
Elsa Bernard, sur la dimension peut-être aussi contraignante qui est celle des textes fondateurs, à la fois pour le Conseil de l'Europe qui s'adosse à la Convention européenne des droits de l'homme et puis pour l'Union européenne, la Charte des droits fondamentaux. Est-ce que ce sont des textes qui ne sont pas suffisamment contraignants pour pouvoir être opposés justement quand il y a un problème?
Alors, pour ce qui est de l'Union européenne, la Charte des droits fondamentaux est tout à fait contraignante. Ce qui la limite considérablement, c'est qu'elle s'applique dans les cas où l'Union européenne est mise en œuvre, donc dans le champ d'application de l'Union européenne. Donc ça ne couvre pas l'état de droit de manière générale. Et c'est ce qui fait que l'on est limité, parce que pour ce qui est d'une violation de l'état de droit de manière abstraite et générale, on n'a que l'article 7 et ce nouveau cadre prévu par la Commission.
Dont on va parler dans un court instant, voilà.
Il faut passer par une procédure d'infraction, au niveau de l'Union européenne en tout cas, par un manquement, si l'on veut vraiment faire condamner un État comme la Pologne, mais dans ce cas-là, il faut un rattachement à une disposition d'un traité ou à un acte dérivé du droit de l'Union.
Et s'agissant de l'autre organe qui est la Cour européenne des droits de l'homme, qui, elle, peut prononcer des condamnations,
oui,
mais qui n'ont peut-être pas de véritable effet, finalement?
Ah si, elles ont un véritable effet, mais encore faut-il que la Cour européenne des droits de l'homme soit saisie. Et pour cela, il faut que les procédures internes soient toutes utilisées, pour que la Cour soit ensuite saisie et qu'elle se prononce sur un litige particulier.
Pierre Verluise.
Le cas de la Hongrie est assez sidérant. C'est depuis l'an 2010 que la Hongrie de Viktor Orban est sortie des clous, tant en termes de respect de l'indépendance de la justice qu'en termes de relations avec les médias. 2010, nous sommes en 2017. En 7 ans, l'Union européenne n'a pas été capable de ramener la Hongrie d'Orban dans les clous. C'est extraordinaire, si on veut bien y réfléchir. Et celui-ci a été capable d'utiliser la crise migratoire de 2015 pour organiser un référendum qui l'a relégitimé à l'interne contre l'Union européenne en faisant appeler les Hongrois à un référendum pour dire « Acceptez-vous, oui ou non, que l'Union européenne nous impose quotas ?» Et il a bien joué et il est toujours au pouvoir.
Mais est-ce que ça n'est pas justement la raison de son maintien au pouvoir, peut-être, que d'avoir cette menace, même si elle n'est pas appliquée, mais cette menace de l'Union européenne, menace de sanctions contre la Hongrie, qui peut être peut-être justement instrumentalisée par le pouvoir hongrois ou aujourd'hui par le pouvoir polonais pour peser auprès de la population en disant « Regardez, voilà cette Europe qui nous veut du mal et nous, on va vous défendre contre ça, Pierre Verluise. »
Dans les deux cas, ils en jouent parfaitement, notamment parce qu'ils maîtrisent relativement bien une large partie des médias et ça rend pour Bruxelles le jeu extrêmement difficile parce que quand Bruxelles prend des mesures ou dénonce des dérives de la part d'un de ces pays, la capitale peut aisément tordre la présentation de la motivation de Bruxelles en disant « nous sommes des victimes de Bruxelles » et dans le cas hongrois, on compare, ce qui est un scandale, Bruxelles à Moscou en comparant l'Union européenne à l'Union soviétique alors que ce sont deux choses tout à fait différentes. C'est le moins qu'on puisse dire. On n'a jamais obligé un État à rentrer dans l'Union européenne. Il y a toujours eu des référendums qui ont été organisés pour les États membres récemment. Donc, il y a là, effectivement, une difficulté pour l'Union européenne, c'est de critiquer, et le cas échéant, un État sans nourrir un discours anti-européen dans l'opinion publique et dans les médias du pays concerné. Enfin, l'Union européenne, pensant là, continue à déverser des milliards d'euros sur ces territoires sous forme de fonds d'aide au fonds de la politique régionale notamment.
Anna Rourka, ce qui vaut pour la Hongrie que vient de nous décrire Pierre Verluis, ça vaut aussi pour la Pologne aujourd'hui?
Bien sûr, et que je crois qu'il faut vraiment en fait aussi contextualiser tout cela. C'est-à-dire que c'est un gouvernement qui a été élu, en tout cas en ce qui concerne la Pologne, par une minorité, d'accord, en cas d'abstention de la majorité, en l'occurrence. C'était la même situation qu'il y a 2 ans, en fait, pas 10 ans, mais dans la précédente période où les partis gouvernaient, là aussi, ils n'ont pas vraiment terminé le mandat. Hein, donc, il faut aussi situer ça dans un contexte, dans le sens où... aussi socio-économique. Moi, je crois que on a oublié que ces personnes ont été élues parce qu'elles ont présenté une rhétorique qui correspondait aux besoins d'un certain groupe de population, notamment toutes les personnes qui vivent dans le seuil de la pauvreté, qu'on a dans la société, pas seulement en Pologne, en France également, la société des catégories B et C, hein, c'est pas seulement les élites. Et que du coup, ces personnes-là sont capables, et ça c'est un peu tragique quand même, pour un bien-être économique, justement, des mesures financières qui améliorent leur vie économique, sont capables de renoncer à leur liberté. Et pour ces personnes, le tribunal constitutionnel, il ne voit pas vraiment l'utilité, vous voyez ce que je veux dire. Donc, on doit contextualiser ça aussi dans une perspective sociologique, à mon sens. Et c'est dire que l'Union européenne est aujourd'hui face à de nouvelles situations dont elle n'a pas du tout pris mesure, je crois, au début.
Comme et pas seulement d'ailleurs en Hongrie ou en Pologne, parce que ces phénomènes-là, on peut aussi les observer à la faveur d'un certain nombre de résultats électoraux récents. Je pense à l'Autriche, avec certes la victoire des conservateurs, mais ce projet d'alliance avec le FPÖ, qui est l'extrême droite autrichienne, même si certains contestent un petit peu cette appellation d'extrême droite, préfèrent parler de droite radicale. Et puis, bien entendu, ils ont pris leur fonction officiellement hier, ces dizaines de députés de l'AfD, Alternative for Deutschland, qui est l'extrême droite allemande, qui hier est entrée, c'est quand même un moment historique au Parlement allemand. Enfin, on voit, Elsa Bernard, que c'est aussi un contexte qui est un peu plus général, hein, qui ne se limite pas à ces deux pays.
Oui, je crois qu'on pourrait parler aussi des élections législatives en République tchèque le week-end dernier. Non, je crois qu'on a un mouvement vraiment eurosceptique qui est assez inquiétant, et que face à ces mouvements-là, avec en plus un retour au peuple, l'idée de démocratie semble ne pas être atteinte parce que ces gouvernements-là se targuent de se tourner vers le peuple. Le gouvernement hongrois l'avait fait, il avait fait passer un référendum stoppant Bruxelles en disant voilà, finalement les citoyens ne veulent pas de cette Europe-là non plus. Donc, face à ce mouvement-là, je pense que l'Union européenne, en tout cas, n'a pas les armes pour protéger l'État de droit.
Alors, il y a quand même une arme que vous avez à peine évoquée tout à l'heure, parce que je vous ai tout de suite arrêté en vous disant, on va en parler dans un instant. Alors, c'est le moment, justement. C'est un mécanisme qui a été mis en place en mars 2014 et qui a pour nom « Dispositif de sauvegarde de l'État de droit ». De quoi s'agit-il, Elsa Bernard? Et à quoi sert-il?
Pas d'une arme, à mon avis. Il ne s'agit pas d'une arme. Il s'agit d'un dialogue qui est prévu par la Commission face aux défaillances de l'article 7. C'est-à-dire qu'au niveau de l'Union européenne, on s'est rendu compte qu'on avait soit cette option nucléaire impossible à mettre en œuvre, qui était l'article 7, soit la procédure d'infraction, donc le recours en manquement, mais qui implique une action uniquement, comme je le disais tout à l'heure, dans des domaines relevant du champ d'application du droit de l'Union européenne. Donc c'est très limité. Et donc la Commission a décidé d'instaurer un nouveau cadre pour l'État de droit, en mars 2014, qui consiste pour elle à instaurer un dialogue avec l'État membre concerné quand elle voit qu'il y a un risque de violation de l'État de droit. Et donc, ça a été mis en place pour la Pologne, avec la Pologne. Ça a commencé...
La première activation du dispositif, janvier 2017.
Voilà, première activation du dispositif, comme vous le dites, janvier 2017. Juillet 2017, on adresse des recommandations. Les réponses, soit sont inexistantes, soit consistent à dire que tout va bien du côté du gouvernement polonais. Et la dernière étape, c'est censé être l'activation de l'article 7 qui ne viendra pas.
Voilà, parce que imaginer un dispositif qui organise le dialogue Pierre Verluise, ça suppose qu'il y ait deux interlocuteurs de chaque côté. Or, manifestement, la Pologne n'a pas très envie de dialoguer sur ces questions.
Oui, c'est assez étrange quand même. Si on veut bien, comme les invités l'ont fait, mettre les choses dans le contexte, la Pologne est un pays qui, à l'époque de la guerre froide, a été exemplaire à bien des égards dans la contestation du totalitarisme. Et personne n'aurait imaginé, à la fin des années 80, début des années 90, que la Pologne n'était pas à sa place, ne serait pas à sa place dans l'Union européenne. Et pourtant, on constate que depuis 2015, il y a des évolutions qui font que la Pologne est en dehors des clous à bien des égards. Quelle paire de claques pour ceux qui pensaient pouvoir voir dans la Pologne un point d'appui pour la construction européenne. J'ajouterais que ce qui a été dit est extrêmement important. Vous voyez qu'après le traité de Lisbonne 2007, effectif en 2009 avec l'article 7, faute d'avoir le courage d'activer pour la Hongrie l'article 7, avec toutes les limites que j'ai précisées tout à l'heure, eh bien, on a dû inventer une demi-marche, en quelque sorte, avant la grande marche de l'article 7. Cette demi-marche, c'est celle de la procédure inventée en 2014 dans le cadre de l'état de droit. Donc ça montre bien que les institutions européennes sont obligées de bricoler parce qu'elles n'osent pas aller chercher le conflit, parce qu'elles ne sont pas faites pour ça. L'Union européenne, c'est un outil à faire la paix, à faire du compromis, et c'est vertueux. Mais quand on se retrouve avec en face des gens qui ne veulent pas respecter les règles du jeu, on ne sait plus faire. Je voudrais ajouter quelque chose au sujet de l'euroscepticisme qui a été abordé pour pointer du doigt un paradoxe. C'est la relation entre euroscepticisme, construction européenne et populisme. Historiquement, la construction européenne a été faite par une partie des élites des États membres à la faveur d'un consensus permissif du plus grand nombre qui laissait faire. Puis, à travers les élargissements, à travers surtout la crise de 2008 qui est venue des États-Unis, on a vu un essor des populismes de droite, de gauche et d'ailleurs dans certains pays de l'Union européenne. Or, le populisme, c'est la détestation des élites. Et j'en viens au dernier temps, c'est que puisque le populisme, c'est la détestation des élites, alors le projet qui a été porté par une partie des élites, la construction européenne, devient détestable. Et on a un boomerang extraordinaire qui est que la façon dont on a construit l'Union européenne nous revient dans le nez, avec de surcroît un consensus qui s'effondre et une participation aux élections pour le Parlement européen qui est très faible. Cela fait 4 parlements européens de suite élus avec moins de 50% de participation.
Anna Rourka.
Alors, je crois que, justement, comme madame disait, tout est fait au nom du peuple. C'est comme la société civile, en fait. Moi, je représente pas la société civile parce que c'est comme si je représentais Dieu. Hein? Donc, c'est pour ça que c'est très important à chaque fois de contextualiser de quels groupes sociaux on parle, qui sont les électeurs. Et de voir un peu quels sont les besoins à chaque fois auxquels ce discours, parce que pour le moment, les programmes politiques, répond. De l'autre côté, on a quand même, alors je parle toujours de la Pologne, des partis politiques qui ne se renouvellent pas ou se renouvellent peu. Ce qui fait également que les citoyens n'ont pas non plus une alternative, on va dire, aussi bien en ce qui concerne la personne que les programmes. C'est un problème en Pologne. Aujourd'hui, l'opposition, même si elle est unie, n'a pas un programme alternatif. On ne peut pas construire un projet de gouvernance contre le parti au pouvoir. Donc, c'est ça aussi le problème. Le problème, moi je suis vraiment une européenne et je suis convaincue de bienfait de l'élargissement de l'Union européenne, parce que aussi l'Union européenne avait besoin de 38 millions de populations pour les marchés économiques. C'est aussi un deal. Hein. Mais du coup, je crois également que le changement doit venir de la société civile. C'est-à-dire que de la société civile et des leaders politiques nationaux. On ne peut pas non plus seulement compter l'Union européenne. En fait, c'est vraiment ce que je pense. L'Union européenne a un rôle de soutien, ce qu'elle fait concrètement, hein, en donnant plus de l'argent par différents moyens pour soutenir la société civile, pour soutenir les gouvernements locaux aussi, hein, en fait, les autorités locales.
En haussant le ton aussi peut-être parfois, ce qu'on a pu voir par exemple à la fin de l'été avec Emmanuel Macron et Angela Merkel qui Angela Merkel qui jusqu'à présent avait plutôt été discrète sur le sujet, puis qui finalement semble s'être aussi rangée à une position un petit peu plus ferme par rapport justement à ces atteintes aux droits fondamentaux, hein, Nahorka.
C'est ça, et que beaucoup de choses se font au niveau bilatéral. Hein. Quand j'interviens devant le comité des ministres du Conseil d'Europe, c'était le cas notamment par rapport à la Turquie, je les demande vraiment d'engager le dialogue diplomatique bilatéral, hein, avant que aussi, même si les institutions intergouvernementales jouent un rôle. Voilà.
Alors, ne pas tout attendre de l'Union européenne, mais miser aussi sur la société civile. Mais malgré tout, demandons-nous si, parmi les outils qui sont à la disposition de l'Union européenne ou du Conseil de l'Europe, d'ailleurs, il y a des choses qui pourraient être améliorées. Alors, avant juste de vous redonner la parole, Elsa Bernard, sur cette question, je précise, enfin, c'est vous qui m'avez, pendant qu'on discutait, précisé que le dispositif de sauvegarde de l'état de droit a été activé pour la première fois en janvier 2016.
C'est oui, ça. Le dialogue entre la Commission et la Cologne a été instauré en janvier 2016.
Et non pas janvier 2017. Voilà, ce qui est encore pire finalement, voilà. Parce qu'on se rend compte à quel point le temps passe et rien ne se passe vraiment. Mais il y a des propositions qui sont faites, et notamment celle de Viviane Reding, qui s'exprimait il y a quelques temps dans une tribune dans le journal Le Monde. Viviane Reding, ex-vice-présidente de la Commission européenne, qui fait le constat qu'on fait ce soir d'une trop grande faiblesse de l'Union européenne face en particulier à la Hongrie et à la Pologne, et qui propose de transformer la charte en une sorte de Bill of Rights européen, en proposant notamment la suspension des fonds européens en cas de violation systémique de l'état de droit. Est-ce que toucher au porte-monnaie, ça pourrait être l'arme de dissuasion fatale, Elsa Bernard?
Oui, alors là, je pense qu'il y a deux choses dans votre propos. La première, c'est une application plus large de la charte des droits fondamentaux, qui est dans les traités, mais qui, comme je vous le disais, ne s'applique aux États que lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. C'est ce qui pose vraiment un problème, parce que c'est très limitatif. Il faut trouver des moyens de les coincer sur la mise en œuvre du droit de l'Union. Et donc, une première proposition de Viviane Reding, c'était d'abolir ce morceau de phrase, en fait, de l'article 51 de la Charte, pour ne plus que la Charte s'applique uniquement au cas de mise en œuvre du droit de l'Union, mais qu'elle ait un champ d'application général, beaucoup plus large. Et le deuxième élément, en effet, c'est un mécanisme de sanction qui consisterait à suspendre, en effet, les fonds européens en cas de violation systémique de l'état de droit par certains États membres de l'Union européenne. Et l'idée défendue par Viviane Reding, à laquelle j'adhère tout à fait, c'est l'idée selon laquelle, si finalement on peut suspendre ces fonds européens en cas de déficit excessif de ces États, eh bien, pourquoi ne pas le faire en cas de violation de l'état de droit ?
On pourrait même dire qu'à fortiori, on devrait pouvoir le faire dans ces cas-là.
Bien sûr, a fortiori.
Vous êtes d'accord avec ça, Pierre Verluise ?
Oui, ajoutons que le budget de l'Union européenne est assez réduit, c'est de l'ordre de 1% de la richesse produite dans l'Union européenne. Donc, sur ce budget réduit, au moins faisons le nécessaire pour qu'il soit dépensé correctement sur des territoires qui respectent les règles du jeu, tout simplement. Ça me semble élémentaire.
Pardonnez-moi, je croyais que vous alliez poursuivre.
Deuxième idée,
voilà.
L'Union européenne est le fruit de nos contradictions, comme cela a été énoncé. Contradictions individuelles, contradictions des États membres, et on le voit bien avec ces procédures, article 7 et sauvegarde dont on a parlé, c'est que finalement, on veut une chose, et en même temps, on veut pas aller jusqu'au bout. On pourrait donner un autre exemple, c'est le poste de haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune. Qui a-t-on choisi après avoir créé ce poste ? On a choisi Madame Ashton, dont on savait très bien qu'elle n'avait aucune expérience en diplomatie. Donc ça montre bien l'ambivalence des États membres qui veulent à la fois une chose et son contraire. On veut à la fois créer un poste de haut représentant et on choisit quelqu'un qu'on sait incompétent pour mettre en œuvre ce service pendant 5 ans. C'est assez étrange.
Alors il y a peut-être une ambivalence et puis il y a peut-être aussi une évolution des mœurs politiques. J'évoque cela parce qu'on est aujourd'hui dans un contexte donc où il y a quand même une montée des populismes, des mouvements l'extrême droite qui notamment capitalise sur le rejet de l'immigration, ce qu'on peut voir alors notamment dans les anciens pays de l'Est, mais aussi dans un certain nombre d'autres pays de l'Union européenne, peut-être une plus grande tolérance aussi à l'égard d'une forme d'autoritarisme politique, et on voit bien la différence quand même avec ce qui a pu se passer par exemple en 2000 lorsque Jörg Haider leader du FPÖ arrive au gouvernement autrichien suite à un accord avec les conservateurs. Il y a quand même un processus de sanctions diplomatiques qui a été pris. Bon, ça n'est peut-être pas très efficace, mais enfin, il y avait au moins quand même l'idée de sanctionner. Aujourd'hui, alors que l'extrême droite prévoit, est en passe de revenir au gouvernement, là, manifestement, l'Europe ne dit plus rien. Est-ce que il y a aussi une plus grande tolérance, oui, à l'égard de ces directions, de ces pouvoirs autoritaires à Nahorka?
Je pense pas. Je pense que la situation est vraiment inquiétante, pas seulement dans l'Union européenne et ailleurs, et que quelque part on est dans une peut-être rhétorique autour de la guerre parce que la montée du nationalisme. Cependant, moi je voudrais juste, je veux pas vraiment en fait être là considérée comme une populiste, mais tout de même, je pense qu'il faut quand même dire que ces personnes sont élues. C'est-à-dire, ils sont élus par les processus démocratiques. On n'est pas en Azerbaïdjan où il y a des élections corrompues. On est, et que du coup, qu'est-ce que ça pose comme question à nous tous, dans nos places respectives, qui fait que les personnes votent pour cela? Et que c'est là où, pour moi, la question de fond. Aujourd'hui, même en France, je ne sais pas, je n'ai pas entendu les débats pour dire, mais pourquoi... pourquoi la situation est arrivée où Marine Le Pen était si haute dans les sondages et qu'à un moment donné, voilà. Parce qu'à un moment donné, ça nécessite vraiment une discussion de fond sur la société, en impliquant la société et pas seulement dans les institutions ou instances décisionnelles. On a un gros problème aussi, je pense, en Europe, et c'est vraiment un gros problème. C'est la question de la participation de la société civile au processus décisionnel. Aussi bien à l'échelle locale qu'à l'échelle nationale. Les personnes ne se sont pas entendues. Elles ne se sentent pas entendues. Et donc, il n'y a pas de processus de consultation publique qui pourrait être transparent, objectivable et ouvert à tout le monde. C'est aussi un problème notamment de Brexit, parce qu'on ne parle pas de Brexit, mais là aussi, je pense qu'une des raisons de vote qui a été faite, c'est que les personnes qui ont voté contre pour le Brexit n'ont pas vu la prévalue de l'Union européenne. Parce que comment ça se transpose dans la vraie vie de la personne? Pour moi, ce sont vraiment des questions et que l'Union européenne également doit se poser.
Elsa Bernard, pour conclure, et puisque Anna Rourka a évoqué le cas de la France en matière justement de respect de l'état de droit et respect des droits fondamentaux, avec notamment, alors la France, elle peut être concernée par ça, avec les différentes législations antiterroristes qui ont été prises, une loi qui vient d'être définitivement adoptée par le Parlement. Est-ce qu'il faut aussi, quand on parle de respect de l'état de droit au sein de l'Union européenne, regarder aussi ce qui se passe chez nous, ici en France?
Ah oui, je pense qu'on peut regarder ce qui se passe chez nous en France. On a cette loi qui va entrer en vigueur le 1er novembre, mais je ne suis pas sûre que l'Union européenne, ou en tout cas ou la Cour européenne des droits de l'homme, sanctionne véritablement ces dispositifs-là, dans la mesure où l'on constate, même dans la jurisprudence de ces cours, qui sont pourtant des cours protectrices des droits fondamentaux, et je pense tout particulièrement à la Cour européenne des droits de l'homme, une plus grande tolérance concernant les atteintes aux droits fondamentaux, parce qu'en face, il y a des préoccupations liées au terrorisme.
J'ai vu d'ailleurs que dans ces circonstances-là, des circonstances graves comme par exemple la menace terroriste, il y avait la possibilité de déroger à la Convention européenne des droits de l'homme. C'est l'article 15, si je ne dis pas de bêtises, Anna Rourka. Ça a été envisagé par la France justement après les attentats de novembre 2015. Le Conseil de l'Europe est attentif à ce qui se passe en France aujourd'hui?
Bien sûr. Et bien sûr, on ne peut pas déroger à l'ensemble de la Convention, mais donc les articles essentiels restent toujours en vigueur. Et que, du coup, il y a la question de double standard, quelque part. Hein? Moi, je pense que c'est une question de double standard aussi qu'il faut penser.
Oui, simplement pour préciser que l'activation de l'article 15 de la Convention européenne des droits de l'homme s'est terminée pour la France à partir du moment où l'on sort de l'état d'urgence, ce qui est le cas à partir du 1er novembre, et où l'on rentre dans le droit commun, puisque l'état d'urgence a été en quelque sorte transposé dans le droit commun.
Eh bien, merci beaucoup pour cette précision et pour toutes ces explications au cours de l'émission. Elsa Bernard, Anna Rourka et Pierre Verluise, discussion que vous pouvez réécouter comme chaque soir sur notre site franceculture.fr. À la page du Grain à Moudre. Vous pouvez également nous écrire si vous avez des commentaires à faire. L'équipe du Grain, c'est Fanny Richer, Antoine Tricot, Virginie Ledivot, Antoine Dulster et Eva Pellerin. C'est une émission réalisée par Alexandra Longuet, avec à la prise de son Jean-Guilain Meige. Sauriez-vous, comme ça, spontanément Arnaud Laporte, dire le nom de tous les collaborateurs de la dispute?
Bah oui, très facilement. Vous avez l'air bien solennel quand vous entamez cette litanie. Il y en a beaucoup moins à la dispute, parce que le Gramo, c'est une super production.
Donc n'est-ce ça, pas ouais, voilà. C'est Hollywood, vite. Chaque soir.
C'est Hollywood. Et demain, ce sera quoi, d'ailleurs, le Gramo?
Ça sera du super Hollywood, puisqu'on sera en partenariat avec La Croix, et on posera la question suivante. L'école manque-t-elle de pragmatisme?
Bon, on attend la réponse demain, aux alentours de 19h. À 19h03, la dispute...
De 18h20, plutôt.
Oui, 18h20. La dispute dans 3 minutes sur les arts plastiques ce soir, avec beaucoup de photographies tout de suite. 19h, les titres de l'actualité, avec Aurélie Kiefer.